Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews histoire de Timeline, en partenariat évidemment avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Et j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir, comme chaque année j'allais dire, Dimitri Casali pour son livre « Ces statues que l'on abat ». Dimitri, vous avez mis à la fin de votre ouvrage une phrase que je voudrais mettre au début, « La mémoire divise, l'histoire réunit ».
C'est tout à fait ça.
C'est exactement, on est dans le sujet, vous avez 3 heures. On se croirait vraiment en philo là.
Parce qu'en fait, vous voulez qu'on commence par ça ?
On va commencer par ça, ouais.
Notre histoire, donc, qui est attaquée de toutes parts, je vais en parler, je vais vous expliquer. Il y a aussi ce problème de la mémoire, la mémoire victimaire, comme on dit, de la concurrence victimaire qui intervient. Et chaque communauté est en concurrence victimaire face aux autres. Donc en France, ça prend des proportions hallucinantes entre les Antillais, les Maghrébins, les Juifs et les Arméniens, mais eux avec raison. Et du coup, c'est vrai que l'histoire est attaquée de toutes parts. Et aujourd'hui, ça devient très, très grave parce qu'elle est attaquée à la fois sur le plan intérieur par ces mouvements communautaires, mais aussi sur le plan extérieur par, en particulier, le terrorisme islamique qui a désigné l'histoire, notre histoire, comme ennemi de l'islam. On a vu, ça m'a terrorisé quand Dominique Bernard a été assassiné. Le terroriste cherchait, avant d'assassiner Dominique Bernard, il cherchait
un prof d'histoire. Oui.
À égorger.
Ça fait frémir.
Ça fait frémir depuis Samuel Paty. Moi qui ai été prof d'histoire pendant 13 ans à Cergy-Saint-Christophe, c'est vrai que je me dis, j'ai bien fait de démissionner.
Est-ce que l'Occident n'est pas en train de devenir complètement fou, schizophrène ?
Non seulement, c'est ça le problème. C'est que non seulement l'histoire occidentale est attaquée de toutes parts, mais la France en particulier. Mais la France est responsable d'aucun crime contre l'humanité. C'est ça qu'il faut rappeler. Au lieu justement d'attaquer notre histoire, ça sape. Les conséquences sont absolument dramatiques au niveau de l'éducation nationale, puisque tous nos enfants, justement, ont ce nouveau sentiment de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilisation qui a été prêcher dans nos histoires, et c'est vrai que depuis 30 ans, et les conséquences aujourd'hui, on y arrive. Moi, je suis toujours épaté quand je relis mon très vieux « L'histoire de France interdite 2011 », où j'annonçais tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, que les profs d'histoire allaient être assassinés. Eh bien, écoutez, qu'on était au bord de l'insurrection civile, quand on voit que maintenant il y a plus de 220 zones de non-droit en France, c'est la partition est là.
Effectivement. Est-ce que c'est pas la conséquence d'un immense manque de culture, d'abord culture générale, mais de culture historique et de culture tout court. Quand on voit qu'on veut abattre la statue de Victor Schœlcher, faut être complètement abruti pour pas comprendre. C'est qu'un exemple, mais il y en a plein.
Absolument, et j'en ai parlé encore, c'était avant-hier, avec Frédéric Régent sur Sud Radio, un historien antillais, lui-même est complètement effondré par le niveau d'ignorance de ses compatriotes, entre guillemets, parce que c'est vrai que moi j'avais écrit aussi la longue montée de l'ignorance en 2016, et c'est vrai que le premier danger auquel nous allons faire face, c'est cette immense, insondable ignorance qui appelle donc une espèce de vide qui donne lieu à un vide spirituel colossal. Et quand la nature ayant horreur du vide, ouais. Effectivement, ce vide spirituel qui peuple à la fois ces jeunes, souvent d'origine immigrée, qui arrivent, qui sont en France, mais aussi les Français, les jeunes Français de souche. Hein, je le vois très bien. Je vais régulièrement dans les banlieues. Donc je fais encore des cours d'histoire et tout. Et je suis effondré par le niveau de culture générale. C'est ça, de nos enfants. Et c'est, pour moi, la crise que nous vivons est avant tout une crise éducative.
On est d'accord.
Et tant que nos élites ne mettront pas le paquet Il faut vraiment mettre le paquet sur l'éducation et arrêter de faire des menus mesures qui ne servent à rien.
Mais est-ce que on va aller plus loin, puis on va mettre le doigt là où ça fait mal? Est-ce que c'est que les enfants? Est-ce que nos élites, entre guillemets, je mets des guillemets, est-ce qu'elles aussi ne sont pas totalement incultes? Quand on voit, pardon, on a un président qui dit tout et son contraire dans la même phrase.
Ce que quand je dis, j'en parle effectivement.
Oui, je sais, c'est pour ça que je lance
sur ce sujet. Que l'on a bas, parce que les statuts, c'est quand même le meilleur exemple. Notre président, le 10 juin 2020, a dit, le 14 juin 2020, Emmanuel Macron dit « En France, aucune statue ne sera déboulonnée ». Un mois après, la statue de Joséphine à Fort-de-France, à la Martinique, est pulvérisée à coups de masse. Avec au cri de you d'une douzaine de militants indépendantistes martiniquais qui, paraît-il, sont, d'après mes dernières sources, sont vraiment une bande de fous furieux. Et ben, figurez-vous qu'il y avait un cordon de CRS, d'une trentaine de CRS qui étaient stationnés à 50 mètres derrière. Ils ne sont même pas intervenus pour protéger la statue de Joséphine qui a été pulvérisée à coups de masse et brûlée avec des feuilles de palmier.
Non mais on est de, enfin,
c'est
le délire.
Donc c'est même un rite tribal et barbare. Ils veulent détruire notre histoire, nos grands personnages. Et c'est vrai que Joséphine de Beauharnais. On en parle beaucoup cette semaine grâce au film de Ridley Scott. Enfin moi je. Pour moi, c'est une des plus grandes. C'est une grande dame de notre histoire, une femme d'une rare intelligence et d'une rare distinction, puisqu'elle était aussi très jolie.
Au-delà de la statue de Joséphine, il y a quand même la statue de Voltaire, qui a quoi, 3,50 m des marches de l'Assemblée.
Alors ça, c'est très intéressant.
Il y a la police à côté.
Je vous disais, donc, on est attaqué par les ennemis de l'extérieur, hein, le fameux terrorisme islamique qui a désigné la France pays des Lumières. Qu'est-ce qui nous reproche tous ces pays, que ce soit en premier lieu, on peut les citer, hein, puisque Erdogan, c'est la Turquie, l'Iran, le Pakistan, même l'Algérie a eu des positions terribles cette dernière année contre notre histoire et qui, de toute façon, ils n'arrêtent pas d'instrumentaliser l'histoire de France dans leur sens. Et ensuite, effectivement, vous avez ces ennemis de l'intérieur. Et c'est vrai que Voltaire, c'est l'exemple type, avec la statue de Rouen aussi, de la mairie de Paris, qui toujours intervient en catimini. Enfin, tous les maires. Là, j'ai dans mon livre, je cite 5 statues. Bordeaux aussi, avec Gambetta. Soi-disant, ça part toujours d'un bon sentiment. C'est pour essayer de la réparer ou de la nettoyer, puisque malheureusement, toutes ces statues sont régulièrement taguées du crime Voltaire de raciste, colonialiste, nique la France. Et donc, ça part toujours d'une volonté de nettoyage. Malheureusement, elles ne reviennent jamais.
Oui, c'est ça.
Comme c'est bizarre. Hein,
mais là aussi...
La bonne nouvelle, c'est... Enfin, après, pareil pour Rouen. On peut parler de Rouen.
On peut parler de tout ce que vous
Rouen,
voulez.
Rouen, c'est la même idée. Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, a eu la même volonté que Madame Hidalgo ou que le maire de Bordeaux d'éliminer la statue, la magnifique statue de Dubray, de la place de l'Hôtel de Ville. Je ne sais pas si vous la connaissez. À Rouen, c'est sublime, cette statue de 1855. Je rappelle que toutes ces statues sont classées aux monuments historiques.
Absolument.
C'est avant tout des œuvres d'art. Et à ce titre, elles sont protégées. Et normalement, la dégradation de toute statue est passible de 7 années, 5 à 7 années de prison et de 75 000 à 100 000 euros d'amende. Là, toutes ces statues sont tagués, déboulonnés, massacrés comme Béatrice de Savoie dans les Alpes la semaine dernière, sans que jamais rien, aucune peine n'intervienne. Et donc, Voltaire, c'est la même idée. Donc, la maire de Paris a voulu éliminer la statue de Voltaire, mais la même idée que Rouen. Quand les populations, ce que je veux vous dire, c'est la bonne nouvelle par rapport aux États-Unis, parce que c'est un phénomène global et occidental. Quand les populations locales se mobilisent, comme à Rouen, dans le 5e arrondissement. Je connais très bien l'association qui a fait revenir la statue de Voltaire. Enfin, pour l'instant, elle n'est toujours pas revenue. Je touche du bois. Mais ils m'ont dit cette semaine que l'adjointe au maire de Madame Hidalgo, Madame Taïeb d'ailleurs, je me souviens de son nom, a promis qu'elle allait revenir cette année. Donc, quand les populations se mobilisent, s'associent au sein d'associations et font du bruit, on résiste beaucoup mieux que les Anglais, les Allemands. C'est catastrophique aussi en Allemagne et surtout les Américains.
Mais l'État laisse faire. Mais dans quel but? Parce que moi, j'ai lu, j'ai adoré, évidemment, mais il y avait toujours cette question, quel est le but profond? C'est quoi? C'est de l'électoralisme?
Alors, pour certains, c'est évidemment, pour Bordeaux et Rouen, c'est évidemment de l'électoralisme, parce qu'ils essaient de séduire une population qui est souvent, justement, issue des populations immigrées. Et c'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est le traitement de notre histoire coloniale en particulier. Et toutes les demandes pour déboulonner nos statues, chaque semaine, il y a des demandes pour déboulonner toutes les statues de nos grands généraux que sont Gallieni, Faidherbe à Lille. Je sais que cette semaine, ils sont revenus à la charge à Lille, et Martine Aubry, et plutôt donne aussi effectivement des cartes à ces associations. Idem à La Réunion, où cette semaine a été pris la décision, c'est tout récent, je vous dis, chaque semaine il y a un problème, c'est la grande statue magnifique de Maé de la Bourdonnée qui est place à Saint-Denis de la Réunion et qui va être déboulonnée pour être planquée dans le fort militaire de Saint-Denis, et le préfet, notre ministre de la Culture a donné son autorisation, bien sûr, alors que déjà il y a des graves problèmes pour bouger cette statue qui est déjà pareil, qui est en place depuis 1855, je crois, et qui est une magnifique statue aussi de Maé de la Bourdonnée. Et le préfet, surtout Filippini, monsieur Filippini, j'étais sidéré, a donné l'autorisation pour que cette statue soit cachée dans le fort militaire de Saint-Denis et loin des regards pour pas faire de vagues. Mais Maé de la Bourdonnée, c'était son ancêtre, entre guillemets. C'est le premier gouverneur des Mascareignes. C'était un homme extraordinaire qui a fait vraiment de la Réunion, de l'île Maurice et de Rodrigue un archipel extrêmement prospère. Ouais. La Réunion, il n'y avait pas un seul habitant, hein. Il n'y avait pas d'habitant du tout. Et donc, regardez quand même tout ce qu'il a fait au niveau des routes, la création des ports. Il a même créé des aqueducs. Il a développé la culture du café, du sucre. Voilà. Et on lui reproche d'avoir fait venir des esclaves pour effectivement la culture du sucre pour les plantations.
Bah oui, mais on voit l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est grave, la plus grave erreur.
Et oui, surtout qu'à l'époque, il n'avait aucun moyen, il arrive dans nos grands explorateurs, ça fait partie. C'est ça, en fait, la période coloniale française, comme les autres d'ailleurs, c'est avant tout une magnifique aventure humaine. Il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque les événements et les hommes. Maé de la Bourdonnée, à 25 ans, il avait donc perdu un bras dans un combat naval contre la marine britannique. Donc, il était manchot, et il a fait tout ça par la force de sa volonté et de son intelligence, quoi. Donc, maintenant, je trouve que mettre cet homme hors du commun dans une salle au fin fond d'un fort, c'est vraiment très triste pour tout ce que la France a représenté pendant des siècles et des siècles pour l'humanité, parce que c'est vrai que ce sont ces hommes-là qui ont permis à la France de devenir à l'époque la première puissance mondiale et après la deuxième puissance coloniale après l'Angleterre. Et aujourd'hui, on les sacrifie sur l'autel de la bien-pensance et du wokisme, parce que ça, c'est vrai que ça nous vient encore des États-Unis, ce wokisme et cette cancel culture, et ça a des conséquences dramatiques pour nos enfants, pour transmettre cette grande et belle histoire. Bientôt, tous nos enfants ne se souviendront plus de Maé de la Bourdonnée et de tous les autres. Et un peuple amnésique qui n'a pas d'histoire est bien sûr condamné à disparaître.
Oui, c'est la fin de la nation, mmh. Puisque c'est l'un des piliers de la nation. Puisqu'on est sur l'esclavage, c'est assez curieux et c'est très paradoxal, puisque finalement, les plus grands esclavagistes en fait. C'est les musulmans, c'est les Arabes, avant même que les Blancs soient même arrivés en Afrique.
C'est terrible ce qui s'est passé le 21 mai 2001. Pour moi, vraiment, la fin de la France, c'est ce fameux gouvernement Jospin dès 1997, 2002. Il a fait voter avec notre ami, mon idole, Christiane Taubira, la fameuse loi qui condamne la traite transatlantique réalisée par la France comme crime contre l'humanité. Et je l'explique dans le livre, la France est le seul pays à avoir légiféré, à avoir fait une loi au Parlement pour condamner notre histoire, enfin l'histoire de la traite. Tous les pays, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, qui pourtant se sont excusés d'avoir pratiqué, mais ils n'ont pas fait de loi. Et nous, malheureusement, on a cette loi qui pèse tragiquement. Premièrement, dans l'article 2, c'est les programmes scolaires. Cette loi oblige l'éducation nationale depuis 2001 à chaque année, nos enfants du CM1, maintenant c'est encore passé jusqu'à la première, on les serine avec l'esclavage, avec le crime de Napoléon d'avoir rétabli l'esclavage. Chaque année, ils ont droit à des chapitres et des chapitres au détriment, bien sûr, de l'histoire de Louis XIV ou de Napoléon ou des autres grands personnages.
Ma fille en quatrième, 10 pages dans son livre d'histoire sur l'esclavage, une ligne sur Napoléon III.
Ouais, non, mais c'est dramatique, c'est... ça, on ne se rend pas compte. Hein. Regardez les manuels scolaires de... Alors parfois, il y a des...
Dans le public, hein, je
crois. Il y a des exceptions, le Hatier est moins pire. Les pires, c'est Magnard, Nathan. Si vous avez des Magnard, Nathan dans votre famille, vous les brûlez... Mais c'est pas possible. Là, vous leur déclarez la guerre. Je connais les.
Voilà, c'est pas bien de brûler des livres.
C'est Benjamin Stora, d'ailleurs. Voilà,
oui, bah oui.
Qui était directeur de collection chez Magnard et qui est à l'origine de cette désinformation tragique. Donc, effectivement, la loi de 2001 a été tragique pour la France, pour l'éducation nationale. Et les conséquences sont graves. On le voit encore avec ces terroristes islamiques qui cherchait à égorger des professeurs d'histoire. Vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il cherchait hein. Et bien sûr, Samuel Paty, il y a 3 ans. Et qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? Rien. Rien, pour, ou pratiquement rien. Et j'ai noté d'ailleurs la phrase du terroriste islamique. Je vais quand même vous la dire.
Le temps que vous cherchez, si vous voulez en savoir plus sur l'esclavage justement musulman, arabe, etc. Il faut lire Olivier Pétré-Grenouillot et Tidiane Ndiaye, qui lui est intelligent, contrairement à vous. Remarquables ouvrages, deux ouvrages vraiment fabuleux qu'il faut absolument avoir lus. Tidiane Ndiaye, je crois, c'est le génocide oublié, quelque chose comme ça.
Voilé.
Tout à fait. Donc c'est quelque chose de... des livres à connaître, qui n'est jamais évidemment invité dans les médias traditionnels. D'ailleurs, les médias, on pourra en parler tout à l'heure.
Alors écoutez ça, parce que ça, hein, les médias n'ont pas
déclaration
allez-y. De l'assassin Mohamed.
On va se faire des potes.
Moukchoukov, hein, le fameux Tchétchène qui a donc assassiné Dominique Bernard. Il dit exactement ce que je vous ai dit sur le vide spirituel qui peuple la tête de nos enfants et de l'éducation nationale depuis 25 ans maintenant. Permettez-moi de vous lire un extrait. « Ô Français, peuple de lâcheté et de mécréants, j'étais dans vos écoles des années et des années. J'ai vécu des années et des années parmi vous gratuitement. Vous m'avez appris ce qu'est la démocratie, les droits de l'homme, et vous m'avez poussé vers l'enfer. » Je trouve ça terrible. Hein, c'est vrai que aucun média l'a relevé. Pourtant, elle est partout. Enfin, elle est à libre disposition.
Bon, sur la lâcheté, je suis d'accord.
Parce que la lâcheté conduit toujours au désastre. Et comme je vous ai dit, depuis 25 ans, nos élites ont toujours été particulièrement lâches. C'est dingue. Il y a encore la phrase de Jean-Louis Debré, qui est souvent invité là. Jean-Louis Debré avait dit lors de la... Des émeutes de juin, surtout, il ne faut pas réprimer, n'en faisons pas trop, ça pourrait les exciter. Mais voilà, cette permissivité de nos politiques est catastrophique, parce que ces peuples-là, dans leur pays, ils ont toujours été habitués à une dictature, à une autorité de sang. Et nous, de voir la lâcheté, ils ne respectent, c'est comme pendant la guerre d'Algérie, depuis la guerre, ils ne respectent jamais, ils ne respectent que l'autorité. Dès qu'on fait preuve de faiblesse, eh bien, ils ne nous respectent plus.
Comment on fait pour sortir de ça? Parce que l'université, c'est pareil. Bon, les médias appuient jour après jour. Comment on s'en sort? À part acheter votre livre, il faut acheter votre livre.
Eh bien, il faut reconstruire totalement et réinventer une école déjà, puisque pour moi, comme je vous l'ai dit, la crise de la France est avant tout éducative, ça c'est sûr.
Mais ça ne dépend pas de nous, ça. Mais,
et familial, et des familles. Donc il faut absolument faire preuve de force et d'autorité. Il faut réinventer une école ultra-républicaine, parce qu'on ne va pas revenir. Donc bien sûr qu'il faut mettre... vous vous rendez compte, pour l'histoire des uniformes, ça prend des années et des années, alors que tous les autres pays au monde utilisent des uniformes dans les classes, depuis que ce soit les Anglais, les Indiens, tout. Et ça ne fait pas d'histoire. Donc il faut vraiment une volonté politique très forte et une politique aussi culturelle, parce que c'est pas simplement éducatif, vous avez raison, c'est aussi une volonté culturelle de remettre notre culture. La France, c'est quoi? C'est le premier pays touristique au monde. On a 90 millions de touristes qui viennent chaque année. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? Ils viennent voir le château Versailles, les Invalides, Napoléon, le Louvre, Notre-Dame de Paris, hein, qui a failli disparaître devant l'incompétence de notre maire de Paris en particulier, qui avait baissé les budgets. Et puis il y a plein d'autres
pas
raisons.
Pas que, le ministère aussi, mais on a eu Didier Reichner hier.
Voilà. Oui, je connais bien. Et effectivement, c'est un scandale. Il faut recentrer tout ça sur l'histoire et la culture française, protéger notre modèle, parce que c'est vrai, et l'exporter, regardez, c'est pas une honte que ce soit encore un Anglais qui ait fait le film de Napoléon, mais c'est fou parce que, bon, on en parle depuis une semaine, mais c'est dingue, il n'y a pas un seul réalisateur français qui est capable de faire un film sur Napoléon. Déjà, même techniquement, ils sont incompétents, et après, bien sûr, ils n'ont pas la volonté de faire un film sur ce bourreau esclavagiste, hein. Je vous ai sorti la première page du Monde de 2006. Napoléon esclavagiste, le bourreau des Noirs et le précurseur d'Hitler. Voilà ce qu'ils écrivent dans Le Monde en 2006.
Ouais, hein,
ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc effectivement, il faut exporter notre histoire en mettant le paquet financièrement, parce qu'effectivement, ça a coûté 200 millions de dollars. Et nous, maintenant, on n'a plus d'argent parce qu'on n'a pas misé sur le soft power français, qui était pourtant la meilleure solution d'exporter nos trois mousquetaires. On va voir, j'espère qu'il va encore marcher. Mais bon, même si là encore, il y a fort à dire sur les uniformes des mousquetaires.
Absolument, qui sont très sombres.
Je n'ai pas retrouvé mes tuniques bleues avec la croix blanche que j'adorais par-dessus tout.
Je ne sais pas si vous avez vu le film d'ailleurs, il est sombre déjà.
Il est trop sombre.
Et puis, pour quelqu'un qui arrive, qui débarque, un gamin qui ne connaît pas du tout l'histoire, alors qu'avant on avait une introduction, on avait au moins un texte, on avait une voix off et tout, qui nous expliquait l'époque, alors là... plonge et débrouille-toi.
Ce que j'aimerais rajouter avant de passer, c'est vraiment important parce que c'est là-dessus. Une société s'affaiblit lorsqu'elle commence à avoir honte de sa culture et de son histoire.
Oui.
C'est exactement ce que je vous disais. Hein, nous n'avons aucune raison, bien au contraire. Et Raymond Aron affirmait que l'ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l'histoire. Comme je vous ai dit, on est en pleine ignorance.
Et
bêtises. Et surtout, j'adore citer ces deux auteurs qui sont quand même plutôt de gauche. Donc Lévi-Strauss et Albert Camus. J'adore ces phrases. Camus écrit en 58 « Il est bon qu'une nation ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. Il est dangereux de lui demander de s'avouer seule coupable et de l'avouer sans cesse à une pénitence perpétuelle. » C'est ça, on est en pleine culpabilité, mea culpa, c'est la faute de la France si tout ce qui se passe de notre histoire va mal à cause de l'esclavagisme, du colonialisme, de la collaboration, de la décolonisation. Vous voyez, les conséquences sont gravissimes de ce traitement de l'histoire de Madame Taubira en 2001, puisque maintenant, on a perdu tous les pays du Mali, du Niger, du Burkina Faso et même de Centrafrique, parce qu'on a laissé s'installer cette lecture coupable. Les Français ont massacré, ont fait du mal à l'Afrique, ce qui est bien sûr totalement faux quand on connaît bien l'histoire coloniale, comme moi qui ai écrit l'Empire colonial français. Et la deuxième phrase de Claude Lévi-Strauss, c'est terrible, je l'adore. Au 19e siècle, hein, il écrit ça en 1989 quand même, hein. Lui, hein, qui a fait Triste Tropique.
Ouais.
Triste Tropique, hein, c'est ça. Mmh. Oui. Vous rendez compte, qui est le chantre de l'anthropologie, de la redécouverte des indigènes d'Amérique du Sud. Enfin, il faut savoir qui est Lévi-Strauss, qu'on nous envie dans le monde entier. Eh bien, écoutez ça. Au 19e siècle, le système de valeurs de la France représentait pour le monde un pôle d'attraction. L'assimilation des immigrés ne posait aucun problème. Il va fort, mais bon. Il n'y en aurait pas davantage aujourd'hui si, dès l'école, notre système de valeurs conservait des valeurs intellectuelles et morales assez puissantes pour attirer des gens venus du dehors et pour qu'ils souhaitent les adopter, comme ce fut le cas jusqu'à maintenant. Il faut vraiment réagir et s'alarmer, sinon la situation sera gravissime, va devenir gravissime. Donc c'est tout ce que je... C'est vrai qu'on n'arrive plus à les intégrer, on n'arrive plus à les assimiler, encore moins, bien sûr. Moi qui vais souvent encore dans les écoles en banlieue, j'étais à Montfermeil dernièrement, et c'est vrai qu'on a un mal fou déjà à communiquer avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est le problème majeur, de retrouver des vecteurs qui leur parlent, donc d'où mes propositions parallèle d'histo-rock pour faire des opéras-rock sur l'histoire de France, pour leur apprendre l'histoire en musique. Mais il faut inventer des nouveaux moyens de les intégrer. Ça, c'est une vérité première. Et c'est vrai que là, y a vraiment, ça devient urgent.
Il y a du boulot et on se voit tous les ans. Et à tous les ans, on se dit qu'il y a encore plus de boulot. Mais il faut y croire quand même.
Il faut y croire.
Malgré tout, il faut y croire.
Moi, j'y crois encore. C'est pour ça, mais... Qui sait, on a déjà, il a mine de rien, Gabriel Attal a pris des mesures sur l'abaya, ça c'est vrai qu'il m'a étonné, j'espère que ça va, on va voir ce que ça va devenir, parce que c'est vrai qu'ils peuvent lâcher du jour au lendemain, mais bon, ils font preuve parfois d'une volonté. C'est dommage que le Conseil d'État, vous l'avez vu, pour la statue de la Vierge à l'île de Ré, ait donné raison donc à ces laïcards pur et dur, enfin j'aime pas le terme laïcard parce que ça, c'est vrai que la laïcité est une des valeurs principales de la République qu'il faut défendre, mais là ça devient vraiment un grand n'importe quoi puisque même les conseillers d'État donnent raison aux associations woke.
On est d'accord, effectivement. Dimitri Casali, vous êtes formidable, mais ça on le sait tous, ces statues que l'on abat chez Plomb, achetez-le, c'est important. Bravo. Oui.